بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مشايخ خير toutes les louanges de remerciements reviennent à Allah Rabbul Izza qui nous permet de reprendre ces programmes après un mois d'interruption et un mois sans se ressourcer spirituellement par la connaissance religieuse. On sent que le degré de iman diminue, la concentration dans la salah elle diminue, la concentration, l'implication dans les doigts, la conviction de nos invocations également elle faiblit. C'est pour ça que c'est un grand bienfait de la part de notre Seigneur Azza wa Jal de nous donner la possibilité de nous réunir uniquement pour lui, pour essayer de comprendre le Coran, comprendre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, connaître la vie de notre prophète alayhi salatu wa sallam et le programme du mardi soir à Nour al-Islam, l'étude des noms d'Allah. Avant les vacances, on avait commencé le nom d'Allah, Al-Shafi. Al-Shafi, c'est celui qui donne la santé, la guérison. Et on avait vu que Al-Shifa, la santé, ça concerne les maladies physiques, également les maladies spirituelles. C'est ce qu'on avait développé la dernière fois à travers un verset qu'on va compléter ce soir. Mais également, chose que j'avais peut-être pas précisé au début, c'est également un remède contre les maladies psychologiques aussi. Les troubles d'anxiété, les troubles d'angoisse, les personnes qui sont souvent en état de panique et ainsi de suite, on a des versets qui nous rappellent que Allah, bidhikrillahi, tatma'innul qulub. C'est par la pensée d'Allah que les cœurs s'apaisent. Naam. Donc, le dernier verset qu'on avait vu, c'est أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس وقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يا أيها الناس وقد جاءتكم موعظة من ربكم premièrement وشفاء لما في الصدور deuxièmement وهدى ça fait 3 ورحمة للمؤمنين ça fait 4 grands bienfaits qu'Allah عز وجل nous accorde. Et j'ai un doute si on avait complété le tafsir du verset. J'essaie de remonter un peu mes notes et tout, de revoir mes notes. J'ai l'impression qu'on n'avait pas conclu le verset. Alors, histoire de bien comprendre de quoi il s'agit, quel est le message de notre Seigneur, on avait vu que Allah, notre Rabb, annonce à l'ensemble des êtres humains qu'il nous a envoyé une exhortation. Le Coran est une exhortation. En commentaire, Allama Sa'di rahimahullah explique que chaque verset nous rappelle les limites. Chaque verset nous rappelle qu'est-ce qu'Allah attend de nous. Chaque verset nous rappelle qu'est-ce qu'Allah Rabbul Izzah n'aime pas, ne supporte pas et ne tolère pas de la part du croyant. C'est-à-dire que la lecture des versets du Coran doit me rapprocher de mon Seigneur Azza wa Jal. Et on avait vu ensuite wa shifa'ul lima fi as-sudur Ibn Kathir Al-Qurtubi, Allama Sa'di, Rahimahumullah Jami'a. Ces trois mufassirin ont commenté ce verset à différentes époques. Ils ont commenté ce verset en disant que le remède de ce qu'il y a dans les poitrines, c'est-à-dire le Coran nous évitera ou nous guérira, les deux. Ça te protège, mais ceux qui en sont atteints, ça les guérit des doutes, des mauvaises pensées, des pensées déviantes, des insufflations, des waswasas de shaitan, pas pour accomplir des péchés, non, des insufflations de shaitan concernant la pratique de la religion, concernant le contenu même parfois du Coran, et également de façon plus globale, pour ne pas refaire le tafsir en entier, tout ce qui peut être un frein dans notre cheminement intérieur vers Allah Azza wa Jal. Tout ce qui peut empêcher un croyant de se rapprocher réellement d'Allah, Rabbul Izzah, c'est le Coran qui va laver son cœur et le purifier. Et Allama Sa'di, avec une belle parole, dit que celui qui s'implique dans la lecture du Coran, ça veut dire quoi s'impliquer dans la lecture du Coran? C'est bien sûr une lecture correcte, une prononciation correcte pour respecter chaque mot qu'Allah Rabbul Azzam nous a révélé, mais s'impliquer dans la lecture du Coran, c'est également aller à la recherche du ma'na, du sens des versets. Ne pas se limiter à la traduction, mais aller vers un tafsir simple, concis, se faire aider par des personnes qui ont la connaissance religieuse pour qu'on ne devienne pas autodidacte non plus, pas parce que voilà, je lis le tafsir, je fais la religion moi-même, non. On se fait aider par les livres et par les savants. Et donc c'est ça, c'est tout ça s'impliquer dans la lecture du Coran. Donc Allama Sa'di rahimahullah dit que celui qui s'implique dans la lecture du Coran trouvera source de motivation pour adorer Allah et trouvera également dans les versets ce qui va le repousser, ce qui va le protéger, le contenir dans le fait de suivre son nafs, ce qui va l'empêcher d'écouter ses passions, d'écouter son instinct, de suivre Shaitan et d'encourir la colère d'Allah Azza wa Jal. Dit que le targhib, on avait parlé de ça, le targhib, la motivation qu'on va trouver dans le Coran et le targhib, les mises en garde, c'est tout ça qui anime, c'est tout ça qui organise la foi du croyant et lui permet de construire un lien intérieur solide avec Allah Azza wa Jal. Et Allama Sa'di dit également, et puis il y a d'autres commentateurs et tout plus contemporains qui disent que on comprend à travers ce verset, on va dire le, on appelle ça le mafhoum mukhalafa, la compréhension inversée, c'est que si de ton cœur il n'y a pas l'envie de te rapprocher d'Allah, il n'y a pas la source de motivation et la prise de conscience qu'il ne faut jamais faire quelque chose qui déplaît à Allah, et tu te contentes du coup d'une pratique mécanique. On pratique notre religion comme ça, sans se poser de questions, sans se fixer d'objectifs, hein, sans réaliser qu'est-ce qu'on fait, devant qui je me prosterne, à qui je m'adresse quand je lève mes deux mains, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, sans porter de jugement, Allah est le seul juge, il y a plein de personnes qui ont une pratique assidue, mais ça reste une pratique très légère, une pratique qui est très légère, une pratique qui ne trouve pas d'ossature, qui ne trouve pas de source bien bien ancré spirituellement. C'est de la pratique, ce sont des bonnes œuvres, des bonnes actions, mais la personne ne met pas suffisamment de cœur parce que l'action n'est pas bien orientée vers Allah Azza wa Jal. Et donc, et d'ici, on se contente d'une pratique comme ça, assez légère, on aura du mal à développer le principe de ikhlas, un mot très simple. Et quand nous on parle de ikhlas, on comprend l'essentiel, hein, mais ce n'est pas tout. Pour nous, ikhlas, c'est être sincère pour Allah, faire l'action pour Allah, et le contraire, c'est faire pour les gens. Oui, ikhlas, c'est faire pour Allah, mais ikhlas, ça va au-delà du fait de ne pas faire par ostentation. Le ikhlas, c'est également, quand tu accomplis l'action, tu es conscient que tu es en train de rechercher l'agrément d'Allah, tu es en train de le faire pour Allah. Allah t'observe et vraiment crée ce lien avec ton Seigneur, quand tu t'orientes vers lui. Alors que si on n'a pas cette, on va dire, cette flexibilité de la foi, cet enrichissement de la foi par les versets du Coran, on a du mal à prendre conscience de la sincérité, de la conviction, de la soumission, et après ça, le istiqama, la fermeté, elle n'arrive pas à s'installer parce que l'action elle n'est pas sûre, elle n'est pas fondée sur des bases très solides. Donc, le Coran est le remède spirituel pour tous ces manquements, ces maladies spirituelles, ces manquements dans la foi. Et les derniers points qu'on n'avait pas commentés avant les vacances, c'est ce Coran est également « Wahuda wa rahmatan lil mu'minin ». Huda, c'est une guidée. Et Allama Sa'di rahimahullah, il donne un commentaire un peu plus précis sur le mot Huda. Oui, yaqul fal huda huwa al ilm bil haqqi wa al amal bihi. Ah Hudhayfa, al huda huwa al ilm bil haqqi wa al amal bihi. C'est-à-dire qu'Allah te donne la possibilité de connaître le haqq, la vérité, et Allah te donne le tawfiq de le mettre en application. Ça c'est là la grande guidée. Et rahma, rahma comment on traduit? Une clémence, d'accord, une clémence. Et Allama Sa'di dit c'est la clémence, mais c'est également, qu'est-ce que ça entraîne cette clémence? Quand on dit que Allah fait preuve de clémence, de miséricorde envers nous, c'est qu'Allah t'accepte et Allah te rétribue pour tes bonnes œuvres. Naam. Il dit que la personne donc qui arrive à créer ce lien avec le Coran, c'est la personne qui réellement trouvera la sérénité, l'apaisement du cœur et le sens profond du ibad. Hada. Voilà, 10 minutes, ça nous a permis de faire un petit récapitulatif de ce verset et de conclure les deux derniers faïda du verset. Naam. Ensuite, l'auteur, dans le développement de ce nom d'Allah, explique également qu'il cite le verset. Allez, on va faire dans l'ordre, respecte l'ordre du mu'allif. « Qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifa » dit ce « huwa », c'est-à-dire le Coran, et une guidée et un remède « lilladhina amanu » pour ceux qui ont la foi. Et à la lumière du verset, « yaqul rahimahullah » فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. C'est un peu long. C'est même très long. Oui. Allez, on va résumer. En fait, il y a deux points qu'on va fusionner pour avancer. Il dit que ce Coran, certes, c'est un remède, un apaisement pour le cœur. C'est un remède également pour les problèmes de santé physique, spirituelle, bien sûr. Mais pour ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi, c'est-à-dire ceux qui ont une conviction sur ce Coran. Et là, on va développer un petit peu. Voilà, c'est la phrase que je cherchais. Il dit, c'est pas un tafsir, hein, c'est ce que notre cher explique. « Wama kullu ahadin » Et c'est pas à la portée de tout le monde, c'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir trouver le remède contre tous ces maux dans sa lecture du Coran. Il dit que non, cela nécessite des qualités. Cela nécessite des qualités, tout comme une personne qui est malade pourra profiter d'un traitement à partir du moment où il maîtrise la préparation d'un traitement. L'exemple est un peu décalé, ça c'est moi qui rajoute. Imaginez que vous allez en pharmacie, enfin, le médecin vous prescrit un médicament, vous récupérez en pharmacie et le pharmacien vous explique que voilà, c'est en poudre, d'accord, il faut rajouter de le petit flacon et ensuite mettre de l'eau jusqu'à tel niveau, agiter, enfin, bref, ainsi de suite, d'accord. Ça c'est la façon d'utiliser le traitement. Mais Luqman dit que non, c'est le pharmacien, il connaît pas, je vais faire comme je le sens. Donc il prend la poudre, il le sniffe, ça rappelle un peu la jeunesse, d'accord. Ça va pas le faire, ta sinusite elle va pas guérir, peut-être tu ressentiras des choses et tout, tant mieux, mais je veux dire, c'est pas la façon de l'utiliser. On a un exemple totalement décalé. Il dit que ce Coran, c'est un remède à partir du moment où tu sais l'utiliser. Savoir l'utiliser, ça veut dire c'est un lien du cœur. Et là, le cheikh explique, dit que cette personne qui lit ce Coran bisudqin wa iman, avec foi, avec conviction que c'est la parole d'Allah. Quand on lit notre Yassine, notre Kahaf, et le soir avant de dormir, Tabarakalladhi suratul mulk. C'est vrai que des fois, en sortant de la masjid, on lit un peu vite, au moins quand vous arrivez chez vous, vous avez déjà lu. C'est compréhensible. Mais je veux dire que, de temps en temps, ou alors j'aurais dû dire tout le temps, prendre conscience que ce que je suis en train de lire, de réciter, c'est Kalamullah. C'est la parole d'Allah. Chaque mot, chaque lettre, chaque accent vient d'Allah Azza wa Jal. A été remis en dépôt à l'ange Jibril alayhi salam, qu'on appelle Jibril, également Jibrail, et qui lui a révélé à notre prophète alayhi salat wa salam. Donc c'est, comme on dit d'une certaine façon, faire qadar, hein, donner de l'importance et de la considération à chaque verset que nous lisons. Réaliser. Des fois, on passe à travers beaucoup de choses, beaucoup de bonnes œuvres, parce qu'il manque un peu de réflexion, un peu de tadabbur, un peu de réflexion, d'accord. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres, hein. Il n'y a pas d'ostentation, il n'y a rien, c'est juste, je faisais la salat tout à l'heure, maghrib plutôt, je faisais deux sunnat, et vous savez que il est masnoun de lire entre les deux prosternations, de lire quoi, Abdurrahman? Oui. Alors il y a plusieurs versions. Allahumma fir warhamni wahdini warzuqni. Et puis la version courte, Rabbi Ghfirli, Rabbi Ghfirli. Rabbi Ghfirli qui veut dire, oh Allah, pardonne-moi. Voilà. Même si on n'est pas 100% arabophone, c'est très facile à comprendre. Mais on le lit, et on enchaîne, et on fait d'autres rakat. Mais des fois, si tu t'arrêtes un instant, pas dit qu'on aura 15 minutes, tout réfléchi, non. Mais juste une petite étincelle de foi, Quand tu es assis là, entre les deux sujouds de ce qaïda, tu dis Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Ben, réalise, tu le lis la tête baissée. La tête baissée. Parce que quand on est assis, les yeux sont vers le sol. D'accord? La tête baissée, avec humilité, avec dévotion, avec sincérité, avec, en reconnaissant nos erreurs, nos manquements, nos fautes, et on dit Oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, pardonne-moi. Et juste après avoir dit Oh Allah, pardonne-moi, tu replonges en prosternation. Tu replonges en prosternation pour faire les louanges de ton Seigneur. Il y a quelque chose qui se passe forcément. Il y a quelque chose qui se passe forcément. Donc pareil, quand on lit le Coran, voilà, ce Coran sera une force pour ce croyant qui a cette conviction, ce yaqin, que ça c'est la parole d'Allah et qui lui donne donc de l'importance. Également, ce croyant qui le lit avec « wa qaboulin ta'am ». Qaboul, ça veut dire quoi ? Oui, Allah ibariki, une acceptation totale. C'est-à-dire, chaque verset, le contenu, le sens de chaque verset, je l'accepte. Amanna wa saddaqna. Que ce soit accessible à ma réflexion humaine ou non. Ce qu'Allah a révélé, c'est kalamullah, c'est haq. Et réaliser que ça, c'est la parole d'Allah. Que tout ce qui est, tout le contenu de ce Coran, c'est haq. On va aller un peu plus vite. Wa i'tiqadin jazimin. Alors, comment on va traduire tout ça? Ok. Avec présence de cœur. Avec présence de cœur. Et en faisant en sorte également, et là il y a un travail qui doit être fait en amont, d'enlever les barrières qui nous empêchent de profiter de la lumière du Coran. Qu'est-ce qui nous empêche de profiter de la lumière du Coran? Oui. Qu'est-ce qui noircit les cœurs? Les péchés. Qu'Allah nous protège. Le prophète m'a dit que lorsqu'un croyant accomplit un péché, hein, qui complète le hadith? Hein, ya Ali. Qu'est-ce qui se passe quand un croyant accomplit un péché? Un point noir, une tache noire s'installe sur le cœur. Si demande tawbah, Allah Azza wa Jal, la tache disparaît. Mais si la personne ne demande pas tawbah, il persiste, il continue, et ainsi de suite, ça arrive à un degré, tel degré que le cœur devient obscur. Et là, ce cœur est bouché complètement. Il ne profite pas de la lumière du Coran, il ne trouve pas la dévotion de la salah, il ne trouve pas la concentration dans ses doigts, ça devient très compliqué. Allah protège, la personne peut même aller au hajj et ne pas trouver la concentration de ses doigts de Arafat. C'est grave ça, non? Allah protège, hein? Allah protège, d'accord? Donc, Cheikh Yaqoul, donc également faire en sorte que, voilà, faire en sorte de diminuer ou de faire en sorte de ne jamais accomplir de péché volontairement. On va dire de façon très simple, délibérément. Après, ce qu'on fait par inadvertance, on demande Tawba, Allah Rabbul Izzah, pour les oublier, les manquements. Mais faire en sorte que tu n'installes pas des points noirs toi-même, des taches noires sur ton cœur, pour pouvoir profiter, entre autres, hein, pour pouvoir profiter de la lumière du Coran. Et que la personne le lit, et wastifa bishurutihi, et que la personne s'engage à respecter les conditions et le contenu du Coran, le halal et le haram. Tout le contenu, il s'engage et il a l'intention ferme de le mettre en pratique. Il dit que cette personne-là, subhanallah, rien ne peut l'atteindre. Ni maladie physique, ni maladie spirituelle, ni maladie psychologique, sauf ce qu'Allah Rabbul Izzah a prédestiné. Ce qu'Allah a prédestiné. Autrement, si ce n'est pas de ce destin, rien ne peut le toucher parce que cette personne, le cœur de cette personne est baigné par la parole d'Allah. Il dit quand un cœur est bercé par la parole du Khaliq avec conviction, avec toutes les conditions qu'on a citées, il n'y a rien de mauvais qui peut toucher le cœur de cette personne ni toucher l'intégrité physique de cette personne. Hada. Naam. Je donnerai un exemple et puis on va compléter pour qu'on réalise un peu mieux. Le premier exemple était un peu bête, hein, je suis désolé pour le médicament là, il y avait beaucoup mieux. Concernant la façon, on garde un exemple avec le Coran, concernant la façon de profiter de la lumière des versets. Vous savez que la lecture de la sourate Al-Fatiha, allez je vais citer le hadith, je pense qu'on peut se permettre 2 minutes. Vous connaissez l'histoire, on va être très rapide, l'histoire des sahaba qui ont été en voyage dans un endroit, mashallah, à 3 mots, tout le monde hoche la tête. On a des savants, des ulama, des muhaddithines, alhamdulillah. Ils étaient en voyage, ils ont demandé l'hospitalité à un village qui ont refusé l'hospitalité, chose qui était rare chez les Arabes, de refuser d'accueillir des gens. D'accord? Et ensuite, ils ont eu la nouvelle, quelqu'un est venu les voir et dit voilà, notre chef, le chef de notre tribu, a été piqué par, là je dis de tête, hein, je dois relire bien le hadith, je ne sais pas si c'était un serpent ou un scorpion, donc un animal venimeux. Et il est très malade, il va mourir. Ils ont été voir ces personnes parce qu'ils ont pensé peut-être que ces gens-là, qui viennent d'une autre ville, peut-être qu'ils ont une connaissance ou une pratique que nous n'avons pas. Et les sahaba ont été voir la personne, ils ont accepté de l'aider malgré le fait que ces personnes avaient mal agi envers eux. Alors, on n'est pas dans un quoi de hadith, si on aurait développé qu'est-ce qu'on retient, le fait que le croyant ne se venge pas et ainsi de suite, et qu'il essaie d'apporter le bien même si ça concerne des gens qui n'ont pas été corrects envers nous et ainsi de suite. Ils ont lu Al-Fatiha. Un des sahaba, là je passe en mode speed, sinon je vous aurais donné le nom de sahaba, il a lu la sourate Al-Fatiha sur cette personne qui a retrouvé la santé. Et ils étaient tellement contents qu'ils ont donné à ces sahaba un troupeau de moutons. J'aimerais bien un troupeau de moutons. Ils lui ont donné un troupeau de moutons. Et arrivé à Madina Munawwara, ils ont raconté au prophète alayhi salat wa salam, et le prophète alayhi salat était très content que les sahaba ont su que la sourate Al-Fatiha est une guérison et shifa. Et le prophète a autorisé aux sahaba de consommer la viande de cet animal, et en plaisantant il a dit partagez entre vous et moi aussi je souhaite avoir une part. C'était toute la simplicité de le prophète alayhi salat wa salam, cette façon très très naturelle de parler aux sahaba. Il n'y avait pas cette sacralisation, non. Le prophète était quelqu'un qui était rempli d'humilité et de sagesse. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Alors ce qu'on comprend à travers ce qu'il fallait ce récit pour expliquer ce qu'on veut dire, c'est que la sourate Al-Fatiha peut guérir n'importe quelle maladie. Je me souviens d'un cher qui m'avait dit une fois que prends un verre d'eau et lis 7 fois la sourate Al-Fatiha avec conviction, yaqin, et toutes les conditions qu'on a dit. Souffle de ce verre d'eau et bois, ou donne à boire à la personne qui est mal. C'est shifa. Assurément, la personne va retrouver la santé. Alors, quand nous, on est habitué à antibiotiques, antihistaminiques, anti-inflammatoires et plein de médicaments, c'est vrai que ce discours peut paraître un peu décalé. On peut dire que oui, mais ça, c'est le côté spirituel, mais le mal, la maladie, l'infection. En fait, c'est tout ça, c'est une seule chose. On peut trouver la santé par le biais d'un produit comme le miel, habatou saouda. Ce sont des choses qu'Allah a créées. Mais on peut trouver la santé également par quelque chose qui n'est pas palpable, par la parole d'Allah Azza wa Jalla. Les savants disent que, je ne veux pas bâcler hein, ce récit, mais j'aimerais qu'on le comprenne quand même. Les sahaba n'ont pas guéri une maladie spirituelle là. C'est pas que la personne dit que oui, je sens de l'hypocrisie ou alors je me sens atteint de telle chose et qu'il a lu. C'est pas ça. On parle d'une maladie, de quelque chose qui est réel, un poison, un venin qui rentre dans. Une personne peut mourir normalement au bout de 6 heures si c'est un serpent ou un scorpion dangereux. Au bout de 6 heures, une personne peut mourir. Bref, avec la paralysie, avec tout ce qui vient avec, parce qu'on a l'infirme, il dit qu'ils l'ont guéri ils l'ont guéri. d'une maladie réelle par la lecture de la sourate Al-Fatiha. Maintenant, moi, à mon niveau, je crains que si j'utilise Al-Fatiha pour quelqu'un qui est malade ou pour moi-même, je ne suis pas sûr du résultat. Pourquoi ? Alors, quel est le problème ? Le problème, ce n'est pas Al-Fatiha. Non, le problème vient de ma propre personne. Manque de yaqin, manque de conviction, lien pas suffisamment solide avec Allah Rabbul Izzah, avec Kalamullah, peut-être trop de péchés qui obscurcissent le cœur, qui fait qu'il n'y a pas la lumière, il n'y a pas ce contact, d'accord ? Il y a quelques étincelles, mais pas la grande lumière, d'accord ? Et donc, pour comprendre ça, j'étais un peu long dans le développement, et le but, c'était de vous citer une autre anecdote. J'étais chez un cheikh une fois, à Madina Munawwara, et le cheikh voulait m'apprendre à faire la ruqya. En fait, c'est pas compliqué, hein ? Il y a des versets qui sont accessibles à tout le monde, d'accord ? Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme ou okay, d'être mandaté ou autre chose. Donc il m'a dit, voilà, enfin, je le regardais procéder et je me rappelle, j'avais amené quelqu'un pour qu'il lise sur la personne. Et quand le cheikh lisait, j'avais des frissons. J'avais des frissons, mais il lisait quoi ? Al-Fatiha, Al-Baqara, le début de Baqara, la fin de Baqara, Al-Mu'awwidhat. Amen, j'ai déjà dit, les versets de l'Uqiya Adi, Ayatul Kursi, ainsi de suite. des versets qu'on a déjà lu des centaines de milliers de fois dans notre vie et qu'on a entendu des centaines de milliers de fois dans la salat. Mais en fait, quand il lisait, il y avait une telle conviction, il y avait un tel yaqin. Après, c'est un grand alim. Hein. Et il m'a dit que voilà, Cheikh Ibrahim, je t'apprends et tout et tout. Il m'a dit que sous certaines conditions, je dis, j'écoute. Il dit que pour que la lecture, elle soit efficace, c'est exactement, il m'a donné un exemple, c'est exactement comme, c'est peut-être pas l'exemple à donner au grand public, c'est quelqu'un qui tient une arme dans sa main. Imaginez, allez, un cas de figure, d'accord? Allez, on va dire vous êtes dans un stand de tir, pour pas faire un genre, d'accord? Et que la personne a, on va dire, un fusil qui est costaud, je fais des calibres, je sais pas comment ça s'appelle, ainsi de suite, mais la personne est frêle, d'accord? Il n'a pas de force, à peine s'il tient les histoires, mais est-ce que l'arme lui... Non. Il dit qu'alors que la personne qui, à la base, est fort, à, il sait comment se positionner, je sais pas, il y a une façon ça, un pied un peu derrière et les reins bien ancrés et tenir les épaules, bref, d'accord, j'espère que vous savez pas tout ça, d'accord, on n'a pas à savoir ça, d'accord, je ne sais pas, hein, c'est ce qu'on voit dans les documentaires, et que la personne elle-même, elle a la force physique, l'outil lui sera profitable, mais dis pareil, le Coran, tout le monde peut le lire, sur des gens malades ou sur soi-même, mais si tu n'as pas cette yaqin et cette piété, on va droit au but, hein. La lecture ne portera pas ses fruits. Il m'a donné un peu les a'ma à la faire. Il m'a dit tous les jours, mille fois, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pour que ton cœur soit lavé des péchés. Mille fois, La hawla wa la quwwata illa billah. Et d'autres versets qui ne me reviennent pas. Hasbunallahu ni'mal wakeel. Ce qui veut dire que je n'ai pas mis en pratique. D'accord? J'ai dit non, cher. C'est chacun sa spécialité. Et bon, je ne me sentais pas capable de faire ça. Ce qui veut dire que ce n'est pas qu'une une question de lecture et de belle lecture, de prononciation. Le qaf, le ain, le qal, le qala, le irfa, le idram, le izhar. Tout ça, c'est. On embellit le tajwid, c'est magnifique. Mais c'est une préparation spirituelle. C'est des conditions de piété, d'éloignement des péchés, de lien avec Allah qui fait que quand ce mu'min muttaqi, et Allah seul sait qui est muttaqi, quand ce mu'min qui a le cœur rempli de piété, il va lire le Coran, ce sera une source de guérison pour lui-même et pour les personnes, pour toute personne qui en a besoin. Qu'Allah Rabbul Izzah nous donne les qualités. Parce qu'on a été un peu, voilà, on a parlé de belles choses, hein, et des fois on se sent un peu amoindri, oui, mais j'ai pas cette conviction, il me manque. Mais qu'Allah nous accorde ces qualités, nous permet de trouver la concentration de nos a'mal, et nous permet de rester éloigné facilement et de façon durable des péchés, et de telle sorte que je trouve dévotion, khushu' dans ma salat, dans mes du'as, et également dans ma lecture du Coran, que la lecture soit une source de guidée et de lumière pour moi en premier. Normalement, quand on sort de la masjid, après avoir fait leur salat, après avoir lu le Coran, après avoir assisté à une assemblée religieuse, théoriquement, on est renforcé spirituellement. Et si le péché se présente à nous, on éprouve un dégoût. Et facilement, d'un revers de main, on arrive à écarter le péché. Si ce n'est pas le cas, si je suis prêt, dès quand je sors de la masjid, à faire ou dire ou regarder des choses pas bien, c'est que la lumière n'est pas entrer dans mon cœur et qu'Allah nous protège de ça, de ces manquements, qu'Allah nous accorde ces qualités. Bien, on va s'arrêter à l'inshallah. 29 minutes, une petite faïda, le dalb s'est terminé. Par la grâce d'Allah, beaucoup de gens, alhamdoulilah, sont partis au Umrah durant le mois de janvier. C'est un nombre record, hein. On parle de 500, 600 personnes, alhamdoulilah, on ne sait pas exactement il y a combien, mais il y en a énormément. Certains disent que oui, c'est l'effet après Covid, maintenant les gens peuvent voyager, les vacances. Oui, il y a ça, il y a ça. Vous pouvez additionner plein de hasbab. En finalité, c'est Allah qui appelle. En finalité, c'est Allah qui appelle. Et il y a des personnes qui viennent me voir, qui me demandent des conseils. Au-delà des maslas, des règles de jurisprudence, moi, je donne toujours deux conseils aux gens. Et en écoutant certaines personnes faire le compte rendu, je me rends compte que voilà, il y a peut-être certains points qui n'ont pas été voilà, bien appliqué. Voilà les deux conseils pour ceux qui doivent partir bientôt, qu'Allah nous emmène tous, Inch'Allah, ceux qui prévoient d'aller. Moi, j'ai toujours deux conseils. Premièrement, il y a des gens qui me demandent, quand on va à Umrah, est-ce qu'on va à Makkah avant ou Madinah avant? Moi, c'est pas un hadith, hein. On va dire que c'est une déduction. Je trouve qu'il est toujours bien de faire Makkah avant Madinah. Parce que l'accomplissement du Umrah, avec le rasage de la tête pour les messieurs et pour les dames couper les cheveux, ça te purifie des péchés. C'est-à-dire que ça te met dans des conditions spirituelles idéales pour profiter de ton séjour. Et ensuite, quand tu vas à Madinah Munawwara, Mashallah, tu es déjà purifié de tes péchés. Parce que sortir de la réunion, arriver directement à Madina, je trouve que c'est une transition. Voilà quoi, on se sent pas prêt encore, pas assez pur pour profiter. Ça, c'est un petit conseil. Et l'autre conseil, et j'ai entendu des gens échanger, dire que voilà, l'avion, réunion Maurice, Maurice Dubaï, m'a dû attendre 3 heures de temps Dubaï pour prendre le vol Jeddah. Quand la Jeddah m'était crevée, dès qu'elle arrive à un poste, elle est partie au Mala, dit ah, mais Dieu donne sa femme à Roi là. M'a senti à lire, mais t'es gagné plus, hein. Ben non, justement. Et j'ai eu l'occasion de donner ce conseil à d'autres personnes, que quand on va au Umrah, on veut accomplir cette action avec ferveur, dévotion, présence de cœur. Donc, imagine, où tu arrives, je donne une heure au hasard, imagine tu arrives à Jeddah à 19h. Tu prends le taxi Jeddah pour aller à Mecca, tu arrives à 21h. D'accord ? Quand tu arrives à 21h, c'est là, tu es en état d'ihram. Il y a aucune obligation. Dès que tu arrives, pose les valises et cours, va faire Umrah. Non, bilax, sois intelligent. Repose-toi, dors toute une nuit. Une nuit de sommeil, jusqu'à tahajjud si tu peux, ou alors fajr. Et ba'd ash-shuruq, de toute façon c'est là où il y a moins de monde. D'accord ? Après la salat de fajr, le shuruq, tu as fait fajr, tu es rentré chez toi, tu as peut-être pris un bain, tu t'es rafraîchi, tu as mis un ihram propre, éventuellement, tu as pu te ravitailler un peu. Là, tu fais ton umrah, le cœur apaisé et le corps reposé. Et c'est là que tu profites. Parce qu'imagine, subhanallah, c'est un sacrifice financier. C'est beaucoup de mujahada. La personne de Safa Marwa, la personne est fatiguée parce qu'elle n'a pas dormi depuis hier soir, le voyage était long, et que tu somnoles et que la tête tourne dans Safa Marwa, tu comptes combien il manque pour finir, pour rentrer. Est-ce que tu profites de ton ibadah? Alors que dans le tawaf, on connaît qu'il faut faire adhkar du début jusqu'à, mais dans le Safa Marwa également, il faut faire le dhikrullah du début jusqu'à la fin. Et un point que beaucoup de gens, pas qu'ils ignorent, mais dans la précipitation, ne le fait pas. Le prophète alayhi salat wa salam, à chaque passage Safa et Marwa, il montait et il s'arrêtait. Et il s'orientait vers la Kaaba. Et il y a un doigt, le doigt est très long. Le doigt est très long. Il faut l'apprendre, il faut le mettre sur votre application, sur votre portable, ainsi de suite. Il les est systématiquement, en plus des takbir, et il faisait doua très longtemps. C'est-à-dire que sur chaque Safa et Marwa, théoriquement, il faut rester 5-10 minutes et faire doua. C'est pas on monte et puis on repart vite compter, il reste 3 tours, il reste 2. C'est vraiment profiter. Vraiment mettre le cœur et faire en sorte qu'il y ait un lien exceptionnel qui se construit avec Allah, parce que tu es en train d'accomplir une action qui est exceptionnelle. Voilà donc quelque chose que je souhaitais partager pour ceux qui iront au Hajj cette année. Préparez vos portefeuilles, qu'Allah Rabbul Izzam et Baraka et accepte ceux qui ont fait le Niyah, et pour ceux qui vont aller au Umrah, au mois de Rajab, au mois de Sha'ban, et qu'Allah Rabbul Izzam nous permet à tous, toute personne présente, de voir la maison d'Allah, la Kaaba, cette année, Inch'Allah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العزة.